bonjour, merci au public d'être si nombreux et présents. Merci infiniment Yannick Hanel, Alice Diop, d'être parmi nous.
Merci Yannick... à vous.
Donc Yannick Hanel, si Yannick Hanel, vous êtes arrivé il y a 2-3 jours.
Oui, trois jours et demi.
Trois jours et demi, Alice, tu viens d'arriver. Je vais recommencer brièvement à présenter Yannick Hanel, mais je pense que beaucoup d'entre vous étaient déjà allés aux rencontres précédentes. Donc Yannick Hanel, écrivain, essayiste, avec une très large palette autour de la fiction, quelquefois du documentaire ou du document historique. On a vu présenter quelques livres le premier jour, les livres qui t'avaient... que tu aimais. Le second jour, tu as parlé plus de tes œuvres. Donc, tu as parlé du Trésorier Périer, de Yann Karski, des Renards Pâles, du tout petit dernier livre qui s'appelle Bleu Bacon, qui est sorti en tout début d'année. Tu es aussi fondateur d'une revue qui s'appelle Aventure et qui va sortir en avril prochain. Tu es aussi chroniqueur à Charlie Hebdo pour des chroniques politiques, mais aussi cinéma. Et tu es aussi réalisateur, mais bon, tu as réalisé un petit court-métrage, mais il faut le dire, hein, je ne sais pas si Alice savait, tu es un petit court-métrage, donc ça veut dire que tu es passé à l'écriture cinématographique, et donc tu es passionné de cinéma. On lit dans le dernier livre, justement, Bleu Bacon, je ne sais pas si vous l'avez lu encore ou vous le lirez, que quand tu étais en Afrique, enfant, tu étais abonné à une revue de cinéma, et que tu attendais patiemment.
Elle venait par bateau. Donc vous imaginez le temps, mais c'était le XXe siècle. Hein, c'était pas...
Et tu voyais quelques films là-bas, je crois.
C'est là-bas que j'ai découvert à 12 ans, dans un cinéma en plein air, Apocalypse Now, au premier rang. J'étais éberlué et je le suis toujours. Je n'en reviens toujours pas, quoi.
Je l'ai revu il y a 2 mois. Ouais, c'est marrant parce que je l'ai revu il y a 2 mois et c'est un film qui me travaille beaucoup sur le prochain projet là, autour de l'Afrique fantôme.
Ah, oui.
Il y a quelque chose comme ça de très conradien. Enfin, c'est une
adaptation. Bah, c'est une adaptation, effectivement, d'Au cœur des ténèbres. Oui, oui.
Et c'est, ouais, il y a quelque chose de ce film qui je n'arriverai pas encore tout à fait à formuler parce que c'est vraiment très balbutiant, mais qui est au cœur du projet d'adaptation que je commence à réfléchir.
Ah bah écoute, tu vois, il y a une cohérence, oui, évidemment, sur cette violence-là qui est montrée. Ouais. Voilà, donc le cinéma, pour moi, ça remonte à l'enfance, tout simplement. Je suis un admirateur de nombreux cinéastes. C'était la première fois que j'ai vu des films d'Alice Diop. J'ai été saisi, vraiment carrément saisi par Nous et par Saint-Omer. Et je peux dire pourquoi j'ai tenu à l'inviter. Quand on m'a invité à inviter, j'ai tout de suite pensé d'une part à Laura Vasquez, la poétesse qui était là hier. J'espère que vous avez assisté à la rencontre. Elle était merveilleuse, cette jeune femme. C'est un génie, quoi. Et j'ai pas besoin de vous présenter un autre génie, Alice Diop. Moi, je voudrais juste dire une petite chose qui explique ma passion intellectuelle et amicale, disons, pour ces œuvres, qui sont à la fois poétiques et politiques. C'est un même geste, assez rare. C'est que je pense qu'il est question dans ces films de quelque chose dont la politique ne s'occupe plus. Et c'est ce qui fait l'infamie, en général, de la politique, c'est le cœur. Et ce qu'il y a de beau dans ces œuvres, c'est que c'est les deux orthographes du cœur. Le cœur qui comprend, celui qui bat, mais la chose la plus cachée au monde, mais également le cœur avec un H, c'est-à-dire la communauté, le cœur des femmes, notamment, comme dans la tragédie, parce que je trouve que les politiciens actuellement, planétairement, veulent oblitérer la tragédie en chacun de nous. Et quand on oblitère, quand on raye la tragédie, ça donne la parodie. Et on vit dans un monde d'infamie parodique et qui consiste à sans cesse invisibiliser des gens, de plus en plus des personnes. Et je trouve que la vertu de l'art, enfin, sa nécessité, réside dans le fait d'inverser ce mouvement et de revenir au cœur le plus incompréhensible, le plus palpitant, le plus ardent des tragédies. Et dans ton film Saint-Omer, moi, c'est comme quand j'ai découvert Marguerite Duras la première fois, ça m'a sauté au visage, à la fois comme une évidence limpide, et en même temps comme la chose la plus obscure, la plus passionnément obscure, celle qui peut nous occuper toute notre vie. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un infanticide. Et bon, voilà la manière, la mise en scène, la manière dont c'est pensé, dont c'est dit avec une, une élégance, c'est le mot, superbe, par l'actrice qui joue l'accusé. Tout ça m'a fait penser qu'il y avait dans ce geste esthétique, dans cette proposition cinématographique, quelque chose qui est profondément politique, voilà. Mais pas, encore une fois, pas comme les politiciens qui se croient nos politiciens le pensent, voilà. Quand la politique ne s'accomplit plus dans la politique, eh ben, ça, elle va toujours ailleurs, dans des œuvres d'art, dans des chansons, dans des films, dans la littérature, parce qu'elle est plus forte que nous, évidemment. La vraie politique, je veux dire. Donc voilà pourquoi, il y a plein de raisons, mais bon, merci, j'ai surtout envie beaucoup. De te laisser parler.
Tu vois pourquoi t'entends. Je ne peux pas parler après un écrivain. Je leur disais tout à l'heure, la limpidité du discours et mon complexe de la formulation. Non, mais merci, c'est très limpide, pour le coup, ta manière de formuler les choses. C'est très intimidant de parler après, mais ce que tu dis sur la question de la politique qui, quand elle n'est plus à l'endroit où elle devrait être, finalement, contamine les œuvres d'art, je trouve ça à la fois magnifique et ça me permet de formuler précisément à quel endroit je suis devenue cinéaste, comme pour moi un geste éminemment politique, mais comme un geste politique qui se détournait des formes de fabrication même du discours politique. Moi, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait de l'histoire coloniale. En fait, j'ai été fabriquée par la sphère académique et très vite, je me suis rendu compte que ce savoir-là était complètement... on pouvait toujours lui asséner un contre-discours et qu'en fait, je fais partie de gens qui ont été façonnés par un discours qui n'a eu de cesse que de nous confisquer notre dignité, en fait. Et que je vois bien comment la production d'un discours, comment la fabrication d'un discours sur l'autre, comment mon histoire personnelle, mon histoire intime, mon histoire familiale, mon histoire sociale... à quel point ça l'a impacté, en fait. Et que pour répondre à cette violence du discours qui était posée sur moi, pour poser sur nous, je ne pouvais pas produire moi-même un discours qui serait un espèce d'affrontement stérile. Et très vite, je l'ai vraiment mesuré, en fait, que ce n'était pas à cet endroit que je pouvais répondre et que je pouvais répondre par un langage qui allait prendre mon ennemi ou mon adversaire par surprise. Et ce langage était un langage de l'émotion, un langage de la sensibilité, un langage de la preuve aussi. Parce que c'est tout, faire du documentaire essayer de raconter en fait un réel qui n'était pas du tout regardé, raconté de la façon dont on pouvait le vivre, c'était aussi une manière d'adresser comme des pièces à conviction, mais à l'endroit du sensible et de l'émotionnel, à la violence en fait de la configuration de l'autre et de l'utilisation du langage pour asservir et asseoir une forme de domination. Alors, je disais tout à l'heure que j'ai un espèce de rapport complètement obsessionnel au langage, complètement obsessionnel à la formulation, à la manière de dire précisément les choses que je dois dire et que j'ai à dire. Et je crois que ça tient sans doute au fait d'être une femme noire et d'avoir grandi dans ces quartiers périphériques et d'être issue d'une histoire de l'immigration où le droit et l'autorisation de prendre la parole, c'est quelque chose de puissant, de profond, dont je mesure la responsabilité tant les gens autour de moi... n'y ont pas eu accès. Et du coup, je pense que ça doit aussi me rendre fébrile et me rendre fébrile devant cette responsabilité, en fait, de devoir dire précisément ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons. Et donc, j'ai toujours l'impression que la précision de cette tâche-là, dans un langage littéraire ou dans un langage oral, m'échappe en permanence. Et ça crée... des grands troubles. J'ai beaucoup raconté, mais et là en ce moment j'ai l'impression d'être un peu dans ce moment de crise, un épisode complètement étrange où j'ai eu l'impression de perdre l'usage des mots. J'arrivais plus, et d'ailleurs en ce moment sincèrement d'avoir une espèce de bruit de balbutiement, de bégaiement mental qui et de chercher mes mots en permanence. Et ça m'est arrivé au moment de l'accession au pouvoir de Sarkozy et l'énonciation de la déchéance de la nationalité. Bon, alors depuis, on en a vu d'autres. Hein, mais en tout cas, ce moment-là, en fait, ça m'a tellement fracturée intimement, et pas politiquement, justement. Ça m'a fracturée organiquement. D'ailleurs, c'est marrant parce que la loi de l'immigration, quand j'étais au Sénégal, quand la loi a été votée, et ça m'a... fait exactement le même effet, c'est-à-dire ça m'a coupé la parole et j'étais même plus dans une espèce de rage qui pouvait être formulée par un discours. J'étais complètement, ça m'a réduit au silence. Je pouvais plus parler, j'arrivais plus à même le penser, j'arrivais plus à. Et en fait, dans ces moments-là, dans ces moments de grande violence politique, en fait, c'est des violences politiques qui nous fracturent intimement. C'est même pas que quelque, c'est vraiment quelque chose qui rentre, qui nous intoxique de l'intérieur, qui nous corrompt, qui nous blesse, qui nous tue. Et ben effectivement, la pratique du cinéma, en tout cas le fait de réfléchir au cinéma, c'est une forme de, enfin c'est mon endroit de résistance et c'est mon endroit de, au fond, de, c'est mon endroit de discours. Et là en ce moment, je suis tellement dedans que j'ai du mal à parler.
Mais tu disais justement, le cinéma me permet de donner une forme à ma colère. Et c'est intéressant ça. Donc donner une forme à ta colère.
Alors je sais pas si je le dirais comme ça aujourd'hui, parce que justement je trouve que j'ai plus 20 ans et je crois que en fait cette intensité de la colère, elle est d'être uniquement dans un rapport défensif. C'est quelque chose aussi qui me rend de plus en plus malade et de plus en plus fragile. Et j'ai envie de me déplacer de ça. J'ai envie de construire et de produire des formes qui ne soient pas uniquement dans la défense et dans la façon de répondre à la violence de l'autre. J'ai plus envie d'être pris dans ce duel-là qui est perpétuel et qui est incessant. Enfin, moi, j'ai 44 ans, j'ai commencé le cinéma, j'en avais 25. J'ai commencé précisément le cinéma au moment des révoltes urbaines de 2005 suite à la mort de Bounaï Ziyad. Et 20 ans après, alors que j'ai un fils de 15 ans qui a exactement l'âge de Bounaï et de Ziyad, un fils métis donc perçu comme noir, les émeutes au bout de ma rue à Montreuil il y a 6 mois, et tout d'un coup j'ai l'impression d'une boucle en fait qui ininterrompue en fait, et que finalement je pourrais faire presque le même film que j'ai fait il y a 20 ans, qui s'appelait Clichy pour l'exemple, où je suis allée un an dans la ville de Clichy-sous-Bois avec l'idée de répondre à cette violence par de la pensée, à travers ce film, en donnant une forme justement à cette colère-là. Là, je pourrais faire la même chose. Donc je me dis, là, il faut. Enfin, je pourrais. Je peux être ensevelie en fait dans ces boucles qui m'abîment de plus en plus. Quoi. Je me souviens, j'étais avec une très grande amie, Maboula Soumoro, qui est professeure de littérature, qui est spécialiste des États-Unis et qui est vraiment quelqu'un qui en fait s'oxygène depuis 20 ans en faisant régulièrement des séjours aux États-Unis. Elle est prof à Columbia, là où elle n'a jamais pu être prof ici. Et en fait, on s'est assises toutes les deux après 2 jours de terreur, parce qu'elle habite aussi à Montreuil. Et on se disait, bah, en fait, on a tout dit. On peut pas, on va pas reparler, on va pas écrire, on va pas répondre à des journalistes, on va pas refaire c'est plus à nous de les faire. Et heureusement, il y a Diatti Diallo, il y a des jeunes romancières, des jeunes cinéastes qui elles donnent une forme à leur colère. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que je me dégage de ce rapport en fait à la création pour tenter de créer différemment en fait, parce que je pense que ça me coûte trop, ça me coûte de plus en plus.
Et en fait, c'est ce qu'on perçoit vraiment dans Saint-Omer. Je trouve que dans Saint-Omer, il y a une vraie réflexion. Alors, c'est de la fiction déjà, c'est plus de documentaire. C'est ta première fiction, Saint-Omer. Je pense que certains ont vu les films, peut-être Saint-Omer, donc première fiction. Et on sent au niveau de ce que tu dis, de la réflexion que tu as, de plus en plus, plus on voit tes films, plus on voit la réflexion que tu as de la mise en scène, de la part de ta place de la caméra, du temps que tu vas passer, de ces contre-champs dont on parlait tout à l'heure. Et est-ce que c'est ça que tu ressens aussi, l'idée qu'aujourd'hui, est-ce que tu écris plus tes films aujourd'hui qu'avant? Est-ce que tu penses plus à la mise en scène qu'avant? Comment tu réfléchis? Comment tu écris comme tu écrirais un livre? Comment tu prépares ton film et tu écris ton scénario en pensant à la mise en scène?
Bah en fait, disons que la mise en scène, c'est de plus en plus conscient que la mise en scène est l'outil à partir duquel ma pensée politique peut se mettre en œuvre en fait. Et donc j'ai une grande foi dans la mise en scène, mais comme aussi une manière de m'extraire de la violence que produit le réel sur moi. Et donc c'est dans le travail de la mise en scène, dans la réflexion autour de la mise en scène, dans la manière de déguiser mes outils, de fabriquer une forme, que je pense que je trouve en fait un échappatoire à cette violence, parce que je pense que c'est le monde d'aujourd'hui est tout aussi violent, voire plus, qu'il ne l'était là, il y a 20 ans. Donc j'ai encore plus de raisons d'être en colère, mais je pense que c'est quelque chose qui, encore une fois, qui m'aspire dans un trou qui est plus possible. Donc j'ai l'impression que c'est plus dans la recherche en fait dans la recherche en fait que je trouve un endroit où je vais revenir peut-être dans 4 ans en ayant formulé tout ce que cela me fait, mais en ayant été protégée dans ce temps de la recherche et dans ce temps de la création de la forme juste pour dire pour traduire en fait ce que je comprends du monde. Je ne sais pas si c'est clair, ce genre.
Mais c'est très clair, oui. Si, t'en
voilà,
fais pas.
Je comprends de ce qui se passe et de ce que je vis et de ce que je subis. Je crois que dans Saint-Omer, étonnamment, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, que j'ai pensées, que j'ai subies, qui est incarnée dans cette femme, dans la plongée psychique que le film propose. Il y a quelque chose de choses que j'ai vues que les gens ne pouvaient pas voir. Enfin, il y a plein de... Et donc, ce film, c'est une consolation, c'est une réparation, c'est une manière de répondre aussi à la violence qui est faite à moi en tant que femme noire, à nous en tant que femme noire, à nous en tant que société. Enfin, il y a quelque chose qui se dit profondément dans ce film-là, par la mise en scène. Mais je n'ai pas besoin de le formuler. Et je serais très en peine de le formuler, d'ailleurs.
Mais c'est vrai que la... parler de colère, mais moi je parlerais plutôt d'écoute, parce qu'il y a une véritable politique de l'écoute dans le film Nous, qui suit comme ça la trajectoire à travers la périphérie d'un RER, le RERB je crois, et qui s'attarde à écouter, à nous faire entendre toutes sortes de personnes. Et ce qui m'avait frappé, c'était que tu donnes une légitimité comme ça à des types qui passent, enfin, qui réparent des voitures, à toutes sortes de personnes qui semblent non vues dans la société française, mais aussi, et ça j'avais trouvé ça d'une audace inouïe et drôle, hein, c'est que tu donnais également, enfin, tu écoutais également des gens que je trouvais infects, qui étaient des gros chasseurs bien réactionnaires et qui étaient filmés avec une grande délicatesse. C'est-à-dire que quand il y a une politique de l'écoute, elle est pour tout le monde. Et c'est très exactement... Parce que moi, j'étais enfermé, si je puis dire, dans une cour d'assises pendant 3 mois et demi pour écouter aussi. Et la manière dont tu as filmé... Donc, j'ai vu plein de films de procès, mais la manière dont tu as filmé est d'une grande délicatesse géniale, parce qu'on comprend grâce à toi, enfin, on le perçoit physiquement, que les cours d'assises, qui sont quand même des lieux abyssaux, sont des lieux d'écoute. La manière dont la juge, jouée par Valérie Dréville, écoute cette femme qui a quand même laissé son bébé dans une poussette au bord de la mer, qui l'a laissé emporter par les vagues, la manière dont l'écrivaine, puisqu'il s'agit d'une écrivaine qui vient, qui joue finalement ce que toi tu as vécu, parce que tu étais allé personnellement écouter ce procès, l'écrivaine comprend tellement et avec une profondeur empathique si absolue l'accusée qu'elle est en train de se poser des questions sur le fait d'avoir un enfant, d'être une femme noire, d'avoir une mère aussi, parce que la grande énigme de ce film, énigme, je dirais très sauvage, enfin, et qui est le comble qui est d'autant plus le comble de la civilisation que c'est la chose la plus archaïque, la plus immémoriale, c'est avoir une mère. Et le rapport entre une fille et une mère. Et il y a cette écoute permanente qui fait que la question du jugement ne se pose plus. Enfin, pour moi, la véritable politique, elle est là. La politique a abandonné l'écoute. L'écoute est subversive, voilà, c'est une subversion subtile. Et bon, voilà, c'est une proposition d'interprétation.
C'est tout à fait juste. Et je dirais même que l'écoute et la rencontre est totalement subversive aussi. Et notamment la rencontre entre moi et ces chasseurs, entre moi et ce chasseur, Marcel en particulier, moi, elle m'a consolée de beaucoup de choses. Tu parlais de Saint-Omer, mais je peux juste revenir un peu sur Nous, d'ailleurs exactement comme une réponse, comme ma propre réponse à la violence de 2015. Le film naît de ce sentiment de sidération, de cette fracture profonde, que d'une certaine façon, mon histoire, l'endroit où j'ai regardé le monde, c'est-à-dire de la périphérie, l'annonçait. On a fait qu'annoncer. J'ai l'impression que tous mes films n'ont fait qu'annoncer 2015, c'est-à-dire cette fracture profonde. Moi, j'ai été très marquée par le fait que les Kouachi ont... jeter leur carte d'identité, mais comme une signature. Enfin, il y avait quelque chose pour moi. Et en même temps, je me souviens que c'était très, très, très violent. Tout ce moment-là, la marche, il fallait-il y aller, il ne faut pas y aller. Enfin, moi, j'y suis allée, j'ai une expérience hyper violente parce que je me suis fait agresser par un groupuscule raciste de gens d'extrême droite durant cette marche. Donc vraiment, tout était très confusionnant, très violent. Et je me souviens que j'avais besoin de prendre du recul justement par rapport à tous ces discours. Et il y avait un très, très beau livre chez Verdier de Patrick Boucheron et de Mathieu...
Oui, Prendre date, Mathieu Riboulet, oui.
Qui m'a vachement marqué et qui disait, mais en fait, on n'est pas obligé d'avoir une analyse tout de suite. On peut prendre du recul, prendre le temps faire date, en fait. Prendre le temps de comprendre qu'est-ce que ce moment dit de nous, dit de cette histoire-là. Et vraiment, j'avais ce besoin-là. C'est-à-dire qu'il y avait des explications tout le temps. Il y avait une espèce de bruit incessant, un bruit de fond... Où vraiment tout était dit. Enfin, il y avait pour moi, il y avait voilà une manière de. J'avais besoin de m'arracher de la violence de ces discours. Et le livre de François Maspero, donc les passages du Racis Express, dont j'ai emprunté en fait le trajet, dont j'ai emprunté l'idée, dont j'ai emprunté le symbole, m'a donné le cadre pour m'autoriser ça, c'est-à-dire de partir sans aucun a priori, sans aucun objectif, juste aller marcher dans ces endroits qui étaient si convoqués en permanence comme le responsable de ces gens, de ces habitants, et d'aller juste rencontrer, de tenter de rencontrer le réel et de voir ce que ce moment-là, ce que cette démarche-là, ce que les rencontres que j'allais faire allaient dire de nous, en fait. Et je dois dire que c'est le film le plus léger, le plus beau, le plus consolant que j'ai eu à faire. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire ça. Et pendant que tout s'effondrait, et ben, quelque part, la possibilité de cette rencontre avec Marcel dans cet habitacle-là, pour moi, ça dit quelque chose que je pourrais pas transformer dans un discours qui vanterait les mérites du vivre ensemble. C'est pas ça, mais il y a quelque chose qui s'est passé quand même avec eux. Il y a une rencontre qui s'est faite. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais là, ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais envie de les accueillir dans ce film-là, à quel endroit j'étais. Et je ne leur ai pas formulé, parce que moi, je n'arrive pas à formuler mes intentions. Mais juste, en fait, j'ai passé un an à tous les mardis à aller en forêt de Fontainebleau assister à la chasse. J'avoue que j'ai adoré. Hein, j'ai trouvé ça fascinant. Je ne peux pas dire que j'ai adoré, mais j'ai trouvé ça complètement fascinant, complètement fascinant. Et quelque part... Enfin, le film, la possibilité du film, c'est aussi, elle s'est fondée sur la rencontre en fait entre eux et moi, sans que rien n'ait été dit, sans que rien n'ait été formulé. Ils m'ont pas dit, on t'accueille pour telle raison. Je leur ai pas dit, j'ai envie de faire ce film parce que ça. Mais juste, en fait, cette rencontre-là avec eux, dans ce moment dramatique que nous vivions collectivement, était une source de respiration et de consolation qui était vraiment extrêmement oxygénante pour moi. Et quand je faisais la promotion du film, c'était au plein milieu de la campagne électorale, vraiment où je pense qu'on a atteint un sommet dans l'intoxication du discours public inégalé. Et j'étais très heureuse parce que je parlais de ce film. Et pour moi, ce film, en fait, le fait de parler de ce film, non pas de l'utiliser comme un instrument d'un discours politique vantant le vivre ensemble, là où beaucoup, beaucoup de journalistes ont essayé de m'enfermer, en fait, c'est un film qui est tellement formellement... original, qu'on ne peut pas l'attraper à un endroit pour plaquer dessus un discours prêt à l'emploi. C'est un film qui échappe à tout, c'est-à-dire vraiment pourquoi les... Et d'ailleurs, qui perturbe autant de mes amis que mes ennemis, autant des gens de gauche que des gens de droite. Enfin, c'est un film qu'on peut... Voilà, même dans les projections, en fait, c'est plus les réactions des gens, ce que le film fait vaciller, ce que le film... en fait, questionne de la possibilité encore d'avoir la curiosité de l'autre. Enfin, ce qu'il dit formellement, en fait, il dit en lui-même, est beaucoup plus intéressant que le discours on ne peut pas l'enfermer dans un discours, ce film. Enfin, à chaque fois que j'ai fait des projections en fonction des gens, du public que j'avais, ce n'était pas du tout les mêmes choses qui ressortaient. Et ça, je trouve que c'était aussi pour moi quelque chose de très puissant de fabriquer un film qui échappe à toute tentative de lui configurer un discours prêt à l'emploi, en fait. Et c'était, voilà, j'ai adoré faire ce film. Je crois que c'est un des films qui...
Et j'aimerais bien qu'on parle un peu du début pour ceux qui n'ont pas vu le film, parce que je trouve que le film commence avec la chasse, ou avec le regard du petit garçon. Donc, faire un film, c'est suivre des personnes, choisir les gens que tu vas filmer, mais aussi après monter ton film. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu comment tu as composé le montage de ce film-là. De commencer par une scène qui est assez longue, de 10 minutes, que tu peux peut-être nous raconter un petit peu. Et après, comment tu as défilé les autres personnages ? Est-ce que c'est ton chemin que tu as ? Parce que donc, le film est adapté, non ? Est inspiré donc, du livre de Maspero, Les passagers du Roissy Express. Donc, il avait fait 30 ans, qu'il avait écrit 30 ans auparavant. Donc, tu vas suivre à la même voie que lui, à rencontrer ces gens, on va dire les invisibles ou les gens dont on donne pas la parole, et tu vas les filmer. Et toi, quand tu commences un film comme celui-là, est-ce que tu décides de suivre la ligne du RERB ? Tu déjà, quand tu les filmes, tu sais qui tu vas mettre en premier ? Comment tu composes ton film en montage ? Qu'est-ce qui change ?
Alors, en fait, le film. Avant même de commencer à travailler sur l'écriture, j'ai refait le voyage de Maspero vraiment exactement dans les mêmes conditions que lui, sans rentrer chez moi, en dormant sur place dans des hôtels ou chez des gens qui nous accueillaient. Et je suis partie sans caméra, juste avec un carnet de notes et avec un ami qui était dessinateur de presse que j'ai rencontré au procès de Fabienne Cabou d'ailleurs, et qui est aquarelliste. Et donc, on est partis tous les deux. Lui, il ne connaissait pas du tout ces endroits-là. Et moi, je connaissais toute une partie parce que j'ai grandi dans la banlieue nord. Et en fait, j'ai suivi le tracé de la ligne de RER B qui va de Roissy-Charles-de-Gaulle à la vallée de la Chevreuse. Et en gros, qui traverse en fait à la fois la banlieue nord des grands ensembles et la banlieue sud, qui est un peu plus bourgeoise, on va dire, pour être un peu schématique. Et donc, j'ai traversé ces endroits, dont certains que je connaissais, mais que je n'avais jamais arpenté dans cette espèce de disponibilité qu'offre la marche. Donc, y a beaucoup de choses que j'ai vues ou que j'ai revues que je ne voyais pas en y habitant. Et d'ailleurs, j'y habite plus, dans ces endroits-là depuis 15 ans. Donc, il y a aussi quelque chose de complètement différent. J'ai été aussi chercher une partie de mon enfance qui a totalement disparu. Enfin, c'est aussi dans la marche, dans ce que j'ai éprouvé dans ces lieux. Il y a quelque chose qui m'a renvoyé aux images d'archives que j'utilise dans le film, parce que j'ai constaté que finalement tout avait disparu de mon paysage d'enfance, qu'il n'y avait rien, et qu'en banlieue, une des particularités de la banlieue, c'est en plus de ne pas faire trace, il n'y a même pas d'endroit mémoriel, il n'y a pas un chêne centenaire où on va pouvoir venir se remémorer en fait l'enfance qu'on a eue. Enfin, j'ai grandi la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, une cité qui a été depuis 20 ans sous un plan de rénovation urbaine. Donc la plupart des bâtiments ont été détruits, ont été reconstruits. Enfin, c'est-à-dire que même physiquement, géographiquement, le lieu n'existe plus en fait. Donc il ne subsiste rien de ce que j'ai vu, d'une partie de mon enfance. Et donc je marche en me rencontrant ça, en rencontrant cette enfance perdue, en analysant l'absence de traces. Et du coup, je découvre aussi tout le travail de Pierre Bergugno, qui est fondé sur la nécessité de donner une trace à ces terres corréziennes qui n'auraient pas existé s'ils n'avaient pas consigné. Enfin, donc il y a à la fois toute une démarche intellectuelle, théorique, politique. Il y a une démarche de rencontre. Il y a ce que ça me fait. Tout ça fabrique le film, en fait, pendant que je voyage pendant 2 mois. Et donc, ensuite, je décide de revenir à des endroits et de creuser, en fait, cette question de la trace par les archives, par les carnets de notes de Bergugno que j'ai lus de façon complètement obsessionnelle et dont une partie de la matière est intégrée au film. Et du coup, je vais rencontrer Bergugno et je passe du temps avec lui, et tout d'un coup j'ai envie de le filmer lui, mais c'était pas du tout prévu. Et c'était pas, et par ailleurs il était très très ami et très très proche de Maspero. Et je découvre ces chasseurs et je découvre Ismaël et je décide d'aller regarder ma sœur, mais aussi comme un acte de résistance politique à l'effacement de mes propres parents qui n'ont pas été regardés, qui n'existaient pas, dont il reste que peu d'images. Enfin, donc tout ça constitue le film. Et la seule idée que j'avais avant le montage, c'est qu'une des autres sources d'inspiration, parce qu'il y a toujours toujours la littérature en fait est toujours en creux et toujours à la source de mes projets de films. Il y a donc Maspero, bien sûr, il y a Bergugno, mais il y a aussi Joyce, dont le livre Les Jambes du Blin m'offre en fait un cadre structurel en fait pour le voilà comment à travers le portrait de Jean, à travers comme ça l'espèce d'attention à des moments que seul un écrivain avec une espèce d'acuité de regard peut saisir et raconter. En fait, comment il raconte et la ville de Dublin et l'Irlande des années 30. Enfin, donc il y a lui, il y a Carver, il y a comme ça, il y a la nouvelle, il y a la question de la nouvelle. Et du coup, je sais que je vais tenter de faire un film qui serait comme un recueil de nouvelles. Donc chaque personnage aurait un temps à lui, une histoire à lui, mais qui ne serait pas forcément structurée avec un début, un milieu, une fin, mais qui serait un fragment comme ça, et que chacun des fragments, en s'additionnant et en se confrontant, dirait quelque chose de politique, en fait, et qui n'a pas besoin d'être explicité ou surligné par une voix off, mais... juste pour donner un exemple, pour ceux qui ont vu le film, la scène, j'ai filmé le 21 janvier une des cérémonies commémoratives de la mort de Louis XVI qui a lieu chaque année à la basilique de Saint-Denis par des catholiques intégristes. Et en fait, cette scène qui est coupée, moi, je n'avais jamais assisté à ça. J'avais assisté une année avant. Et je me souviens que le discours de l'évêque était d'un anti-républicanisme hallucinant. C'est-à-dire que si vraiment... j'ai jamais vu quelque chose d'aussi violent dans l'agression de ce que c'est que les valeurs républicaines que le discours de ce prêtre-là. Et donc, bien évidemment, l'année d'après, quand on a eu l'autorisation pour filmer, il n'a pas du tout redit les mêmes choses. Mais quand même, il y avait quelque chose de complètement fou dans ces gens, dans ces lieux, dans cette situation. Et en fait, cette situation... Et le regard que j'en ai, parce que c'est une scène qui a beaucoup perturbé mes amis de gauche, qui ne comprenaient pas comment je pouvais filmer avec autant d'empathie cette femme qui pleure sur la lecture du testament de Louis XVI. Et ben, elle ne peut être compréhensible que parce qu'il lui précède et parce qu'il lui succède, c'est-à-dire les rares archives que j'ai de mon propre père, où tout d'un coup, la mémoire de mon père, je la mets au même niveau que la trace laissée par un roi 250 ans après son exécution. Enfin, il y a quelque chose, et le film il travaille cette question de, il y a pas de hiérarchie dans les mémoires, et que la question de l'identité française, elle est composite, elle est multiple, elle est en perpétuelle progression, elle est en perpétuelle recomposition, elle se complète sans cesse. Et ça, c'est le grand discours politique du film. Et j'ai pas besoin, c'est la forme qui me dit, j'ai pas besoin de l'affirmer. C'est ce qu'on voit, et c'est et qu'on voit que je peux, moi, aller discuter avec Pierre Bergugno aujourd'hui, alors que voilà, je viens de l'endroit d'où je viens. C'est-à-dire que quand j'utilise des archives, il y a quelque chose de mon histoire familiale qui a toujours été en creux, mais qui n'a jamais été précisément... que je n'ai jamais montré, en fait. Et que là, tout d'un coup, il y a quelque chose aussi d'une femme qui... qui c'est pas qui devient française, d'une jeune femme française venant de ces endroits-là, dans ces quartiers-là, avec ce père-là qui n'ose pas la regarder, qui s'exprime avec énormément d'humilité, qui raconte la première fois qu'il est venu, mais en même temps, il y a une des reproductions de la Joconde à la maison, puis il y a moi qui vais voir Bergugno, et puis il y a cette femme qui va se confronter aux chasseurs à la fin et qui les rencontre. Enfin, il y a quelque chose qui raconte aussi une manière... d'être française au XXIe siècle, incarnée par ma présence, par mes archives, par les rencontres que je fais, par la manière dont je filme. Enfin, pour moi, j'espère que ça est dit, que c'est le film qui le dit, que c'est la mise en scène qui le dit, que c'est le montage qui le dit. En fait, dans ce film, le montage est tout le discours du film. C'est toute la note d'intention et c'est toute la... Oui, c'est le commentaire du film. Et donc, pour répondre à la question auquel je n'ai pas répondu, c'est-à-dire le début. Alors, bien, je n'avais pas du tout filmé cette scène-là. C'est une scène de Brame du Cerf, donc qui n'est pas du tout dans la chronologie et pas du tout au début. Mais tout d'un coup, mettre cette scène au début, à un moment où on ne sait pas qui est qui, ça installe à la fois la question philosophique du film, c'est-à-dire le prendre le politique même. Prendre le temps de regarder l'autre qui se soustrait, à la fois cet animal qu'on va chasser, mais en même temps cet animal qu'on attend, qu'on aimerait rencontrer, mais à une espèce de distance comme ça, à la lisière, en fait. C'est vraiment des mondes qui sont à la lisière les uns des autres, qui tout d'un coup vont se rencontrer, mais avec une crainte et à la fois un désir, à la fois une... Voilà, c'est ce que je me raconte dans ma tête, mais chacun la voit différemment. Mais c'est sûr que cette scène, elle installe un temps. Et elle installe le temps du film, qu'on va prendre le temps d'aller regarder. et qu'on va sans doute aussi abolir cette frontière et ces lisières en fait qui instaurent, qui créent en fait des mondes qui vivent les uns à côté des autres sans se côtoyer vraiment.
Je trouve que tout ce que tu dis de la France est très très juste et ample. Et j'aime bien, tu parles de cinéma comme on pourrait parler de littérature. Et c'est la première fois que j'entends une cinéaste parler de son film comme d'un recueil de nouvelles. Je trouve ça très beau, c'est très parlant. Et justement, on s'est rencontrés, toi et moi, aussi avec la littérature qui crépite, qui tient la place aussi d'un désir. J'avais vu effectivement la scène où tu dialogues avec Pierre Bergougnoux. Et à l'époque, je t'avais questionné sur un projet qui, je crois, tient toujours. Enfin, tu es en plein dedans, lié à Michel Léris et un livre très particulier qui s'appelle L'Afrique fantôme, qui est un très grand livre de Michel Léris, qui rend compte d'une expédition coloniale, faut bien le dire. Une exposition qui a vertu scientifique entre 1931 et 1933. Michel Léris part avec des anthropologues, avec Marcel Griol notamment, pour traverser donc de Dakar à Djibouti l'Afrique, la documenter. Et il se trouve que cette aventure faite avec des intellectuels, va se transformer aussi au fur et à mesure, si on en croit Léris qui tient le registre, va se transformer en séquence de spoliation. Parce que Griol et toute l'équipe vont voler dans différents villages, notamment chez les Dogons, non seulement des œuvres d'art, mais des œuvres qui ont également une valeur spirituelle, ce qui, dans presque tous les pays d'Afrique noire, est la même chose. Enfin, l'art étant par essence spirituel et au risque de déstabiliser certaines communautés, certains villages qui n'ont plus leur dieu, disons. Et il se trouve que ce récit est donc écrit par Léris, qui est un grand écrivain, mais qui ne voit que depuis son regard cette histoire. Et tu m'avais dit il y a 2 ans, quand on a fait un petit échange ensemble, que j'avais filmé pour un colloque, disons, sur Léris et Georges Bataille, tu m'avais dit que tu étais en train de travailler sur justement le contre-champ, c'est-à-dire les personnes, les hommes et les femmes noirs qui, sur le passage de cette expédition, n'ont pas été regardés, ou sont à peine décrits, à peine rencontrés, qui n'ont pas la parole. Et pourtant, Léris était, comme tu dis, de gauche. Mais je crois que ces valeurs-là semblent vaciller décidément et depuis très longtemps. Donc, je ne sais pas si tu as envie de parler de ce projet, parce qu'il est toujours en cours, c'est ça, non ?
Il est plus que jamais en cours. Il est vraiment dans le magma ou dans la glaise ou dans l'argile, je ne sais pas, en train d'être sculpté. En fait, j'ai un rapport très, très, très personnel, très intime à ce livre. C'est pas filmé, je peux parler de choses dont j'ai pas encore parlé à mes sortes. Je t'en ai parlé un peu, mais je sais pas comment parler de ce film sans parler de cette chose là de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai découvert de moi dans ce texte. Et en fait, donc moi, j'ai fait des études d'histoire coloniale et d'anthropologie à la Sorbonne, et l'Afrique fantôme était un des ouvrages de référence quasiment sacralisé en fait par, je me tourne vers toi parce que je sais que toi aussi tu as enseigné, étudié l'anthropologie, par nos professeurs. Quoi. C'est le livre de référence, c'est le livre sacré qui invente l'anthropologie, l'ethnologie contemporaine. C'est la mission Dakar Djibouti, c'est la première des grandes missions scientifiques françaises qui a non seulement inventé la discipline, en tout cas l'a institutionnalisée, mais en plus, par les 4500 objets qui ont été rapportés par la mission, donc beaucoup, beaucoup volés, spoliés, notamment par Léris. Mais c'était presque l'objectif premier, en fait. C'est pas nommé comme ça, mais la prédation, le rapt, mais même des mythes, des gens, de leurs rêves, de leur histoire, de leur culture. Enfin, il y a quelque chose d'une grande prédation qui raconte aussi c'est ce regard colonial, en fait. Et en fait, l'anthropologie, c'est inventé en plein et en même temps que l'entreprise coloniale. Et cette mission-là, dans les années 30, était vraiment au cœur de cette violence coloniale. Et Léris, la puissance de ce livre et la beauté de l'intelligence de cet homme, c'est qu'il a eu l'honnêteté, la lucidité, la clairvoyance de le dire. Et c'est un livre qui l'a aussi complètement transformé et qui en a fait une des voix les plus ferventes de l'anticolonialisme à l'issue de ce voyage-là. Donc c'est un livre qui est un très très grand enseignement aussi bien pour les historiens que pour les anthropologues. Mais c'est vrai que quand je l'ai lu, en fait, ce discours-là, la violence sous-jacente de ce texte-là, la manière de penser l'autre, la manière de regarder la façon dont la science et même la littérature française a configuré le récit de l'autre, a prédaté, a naturalisé, a calcifié en fait ces cultures-là, c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à formuler, mais que je ressentais profondément dans ma manière de le lire. Et en fait, je sentais que ce discours-là n'était pas du tout... il n'était pas audible parce qu'il n'était pas complètement formé, mais qu'il n'y avait pas de place pour qu'une femme noire de 20 ans puisse dire « Attendez, pour moi, ce livre, il a beau être sacré, il est aussi extrêmement problématique à un endroit politique, à un endroit humain, à un endroit... » Et je ne pouvais pas le dire, en fait. Mais je sentais confusément, j'ai eu un espèce de rejet pour ce texte parce que vraiment je me sentais agressée, insultée, niée, sans avoir la possibilité, l'espace de pouvoir le dire. Et donc c'est un livre que j'ai laissé comme ça pendant des années. Et c'est grâce à ma rencontre avec Pierre Bergougnou, dont l'Afrique fantôme et notamment toute l'œuvre de Léris est un compagnonnage intellectuel fondamental pour lui. Qui est vraiment une source d'inspiration, comme l'atteste l'écriture de ces journaux. C'est avec lui, qui est complètement fasciné aussi par l'art africain, alors qu'il n'a jamais été en Afrique, mais qui collectionne, qui est un grand collectionneur d'art africain. C'est lui qui m'a remis sur la voie et sur la piste de l'Afrique fantôme, que j'ai relu donc lors d'un voyage en Afrique, au Sénégal, là où j'ai une maison. Et je lis ce texte, et un moment, Léris dit « Je passe devant l'orphelinat de Kaï. Tous les enfants sont métis sans commentaire. » Voilà. Et je lis cette phrase, je passe devant l'orphelinat de Kaï, tous les enfants sont métis sans commentaire. Et je ne sais pas pourquoi cette phrase a allumé une étrange intuition chez moi. Donc je suis allée regarder l'album photo familial et je vois là une photo de ma mère qui n'a jamais été cachée, en fait, avec un enfant blanc. Et c'est une photo qui date d'avant son arrivée en France au début des années 60. Et en fait, la photo n'a jamais été cachée, mais la légende était que ma mère était la nourrice d'une famille de colons à Dakar dans les années 50 et que cet enfant était l'enfant qu'elle gardait. Et je regarde la photo, donc je suis devenue, moi, entre-temps, la mère d'un enfant métis. Et je regarde cette photo et je me dis, mais c'est marrant, l'enfant, il n'est pas blanc, il est métis. Et c'est fou, il ressemble étrangement à mon fils. Et tout d'un coup, dans un espèce de vertige, je regarde la tête de cet enfant, le visage de ma mère, et je referme l'album sans plus jamais y penser. Et je crois que je suis déjà en train de travailler sur Saint-Omer, ce qui est très inquiétant, mais je ne repense pas à cette chose-là. Peut-être 6 mois avant de finir le film Saint-Omer, on me propose une résidence à Valence. Et c'est de 3 ans au Théâtre de Valence, c'est Marc Lenné qui me propose ça. Et donc, je me dis, bon, je ne vais pas travailler sur une pièce, mais j'ai besoin d'avoir un espace intellectuel pour aller travailler ce texte, L'Afrique fantôme, qui est une somme, qui est vraiment un livre à de multiples entrées. Et je me dis, peut-être que je vais avoir 2-3 ans pour réfléchir à ça. Et je me dis, j'aimerais beaucoup travailler ce livre avec quelqu'un que je ne connais pas, commencer à réfléchir à comment, à quel endroit rentrer, à quel endroit commencer à sculpter le point de vue avec lequel je vais faire cette adaptation. Et donc, bref, pour la faire courte, je décide de convoquer un écrivain qui s'appelle Sylvain Prudhomme, qui a lui-même vécu toute sa vie en Afrique jusqu'à l'âge de 20 ans. Et donc, j'avais lu quelques-uns de ses ouvrages qui se passaient en Afrique. Et je ne sais pas, j'ai eu une intuition que peut-être travailler avec quelqu'un qui est exactement de la même génération que moi, donc qui n'est pas complètement... qui est loin de cette histoire coloniale, qui est comment, aujourd'hui, en ayant 40 ans, en ayant comme ça un rapport très, très différent l'un et l'autre à l'Afrique, comment on pourrait réinterroger ce livre, quoi. Et donc, c'est au cours de ce travail-là que tout d'un coup, je lui remontre cette photo. Et là, tout de suite, il me dit, bah, c'est évident, c'est son fils, c'est le fils de ta mère. Enfin, il y a quelque chose. Et à partir de cette révélation, il y a tout un rapport à la violence coloniale, à la façon dont cette violence coloniale continue, en fait, à agir et sur cette société, mais à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos corps, à quel point elle a fabriqué ce silence qui fait que il y a toutes ces. En fait, pour moi, la seule possibilité d'adapter ce livre, en fait, c'est de le regarder à l'endroit très, très, très singulier, très particulier de cette phrase. Je passe devant l'orphelinat de Caille, tous les enfants sont bêtises, sans commentaire. C'est presque dans le sans commentaire, en fait. Et dans ce que ça dit de, dans ce que ça dit de moi, dans ce que ça dit de très intime. Et du coup, à partir de ça, j'ai fait une lecture très personnelle du texte, où en fait effectivement les voix africaines sont totalement silencées, invisibilisées. Enfin, où il y a deux personnages un informateur et un boy qui traversent, qui partent avec eux pendant 2 ans et dont Léris ne dit très peu. En fait, ce qu'il dit d'eux, c'est soit des bouffons, soit des betteraves de la brousse, comme il appelle Macan par exemple. Macan, virgule, cette betterave de la brousse ou Mamadou Vade. Et tout d'un coup, il y a une scène avec à la fin du voyage. Sur le bateau du retour, où Macan, au lieu de rentrer à Dakar, comme en fait de faire une escale par Dakar et de partir à Dakar, décide de faire la route avec eux et d'accoster à Marseille. Et tout d'un coup, cette scène de Macan qui fume une pipe sur le quai du bateau et qui arrive à Marseille, bah c'est toute une autre histoire que ça me raconte. Ça me raconte l'histoire de mon père qui lui a débarqué à Marseille par le même bateau 15 ans après. Et donc tout d'un coup, Macan, je me rends compte que c'est un personnage qui ne peut pas exister qu'à la fin, mais qui va exister dans tout le voyage et qui va être designé sur l'histoire personnelle de mon père. Il y a ensuite toutes les histoires avec les femmes qui sont soit chosifiées, soit essentialisées, soit profondément méprisées. Et il y a cette femme, Emma Weish, qu'il rencontre à la fin, avec qui il va y avoir une histoire d'amour à la fois magnifique et terrible, hein, qui raconte et en fait qui me permet aussi de penser à ce petit garçon et à cette histoire de ma mère que je ne connais pas et dont peut-être la fiction, l'histoire d'Emma Weish et Léris peut me permettre d'essayer de digérer, de réparer, de nettoyer, de guérir en fait de ce que je ne sais même pas mais que j'ai à l'intérieur de moi. Enfin, il y a ce livre, il y a ce projet d'adaptation et il y a comment il rencontre des intuitions très profondes, comment il rencontre une histoire personnelle très intime, comment il continue à parler d'aujourd'hui. Pour moi, c'est pas un livre qui date de qui parle, il parle profondément de là. Et j'ai l'impression que de ce film, j'en ai besoin pour au fond pour me libérer moi aussi de cette histoire-là en fait et de ce regard-là, d'inverser le regard, de décadrer aussi, de décadrer, de regarder ailleurs. De travailler à partir des failles. Et après, ce qui est compliqué et ce qui en même temps pour moi est plus tant une source d'inquiétude, c'est qu'effectivement c'est un livre qui est sacré, c'est un livre qui a été extrêmement commenté. Donc la question que je me pose en ce moment, c'est qu'est-ce que peut le cinéma et qu'est-ce que moi je peux à l'intérieur de cette histoire qui a été c'est un livre qui a été vraiment extrêmement étudié, commenté par de nombreux anthropologues, etc., très, très critiqué, très remis en question. Eh ben, peut-être que je peux y ramener de la fiction à défaut des archives, justement. Parce que Mamadou Vade et Macan, c'est une photo prise par Léris que j'ai retrouvée dans les archives du Musée de l'Homme. Et à partir de la photo de Macan, je n'ai pas vu la betterave de la brousse. J'ai vu toute une histoire humaine qu'il va falloir écrire. Mais c'est, tout d'un coup, c'est, je m'autorise la licence poétique et fictionnelle pour aller réparer quelque chose... qui n'a pas été dit. Emma Weish, elle n'est racontée que par Léris. Moi, j'aimerais beaucoup qu'Emma Weish existe dans vraiment de rapport d'égalité avec Michel Léris et que tout d'un coup, elle ait la parole et que à travers elle, ce soit ma mère, ma grand-mère et peut-être moi qui puisse se tenir face à un homme blanc et lui dire non, on existe dans notre pleine dignité. Enfin, voilà, c'est toutes les réflexions qui m'habitent autour de ce texte qui est vraiment... Enfin, ça fait 2 ans que je travaille dessus. J'en suis juste à une phase où j'essaye de mettre en forme tout ce que je raconte là et en m'autorisant justement le droit à la fiction.
Et justement, tu parlais donc tu as travaillé avec Sylvain, enfin l'écrivain qui t'a fait donc vous avez fait une première lecture, une épuration du texte ou une adaptation du texte. Aujourd'hui, tu prends un co-scénariste pour travailler. T'as besoin ou t'es vraiment tu te mets toute seule dedans parce que quelque part tu t'appropries toi le texte. Quelque part, ça sera une adaptation très libre, en fait, j'ai l'impression. Donc là, tu es toute seule face justement à un texte comme un écrivain, ou comme beaucoup dans le cinéma, on travaille en équipe. Tu t'es dit, tiens, je vais aussi chercher des scénaristes avec moi. Tu en es dans quelle phase, là?
En fait, moi, je ne travaille pas avec une scénariste, je travaille avec ma complice intellectuelle qui s'appelle Amrita David, et qui est la monteuse de tous mes films, et ma compagne intellectuelle, en fait. C'est quelqu'un avec qui je chemine... intellectuellement et qui... Et donc, avec qui j'ai monté et écrit Saint-Omer, avec la complicité de Marine Diaye. Et là, effectivement, j'ai fait un premier travail avec Sylvain, mais qui a donné lieu à une pièce que finalement, on va pas monter. Et en fait, ce premier travail, c'était que autour de Gondar. On a travaillé surtout sur l'histoire entre Emma Weish et Léris, à partir des extraits, et en fait, de ce que ces extraits nous renvoyait, nous faisait, voilà, commence à nous déplacer, commence à nous questionner intimement. Et là, en fait, non, je travaille avec Amrita, donc et on est toutes les deux à tenter d'abord. On a extrait énormément de scènes, parce que ce qui est magnifique dans l'Afrique fantôme pour la documentariste que je suis, c'est que c'est profondément documentaire. C'est un peu le même travail que j'ai fait avec les tweets du procès et toute la matière réelle du procès de Saint-Omer, avec laquelle j'ai tissé ensuite une fiction. Là, c'est pareil, c'est qu'il y a une puissance matière documentaire qui est tellement dense, riche et précise. Et en fait, à chaque fois j'en suis à ma cinquième lecture, et à chaque fois, on taille dedans, et en fait, on arrive en fait à de plus en plus à sculpter l'endroit où on va regarder tout ça. Mais je dois dire qu'on est vraiment extrêmement aidé par Michel Léris, qui a une lucidité, une clairvoyance et une précision de regard, une intransigeance et une espèce de d'honnêteté en fait par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il sent, qui est de matière magnifique. Et donc ça va être aussi un personnage, un des personnages principaux bien sûr, Michel Léris, et c'est un personnage d'un romanesque, d'une complexité que j'ai rarement rencontré en fait. C'est quelqu'un d'une, ouais, tu le connais mieux que moi, enfin d'une complexité. Non,
pas mieux que toi, mais il est pétri aussi de culpabilité. Voilà, c'est la culpabilité française.
Il porte en lui tout ça. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est par exemple la matière de ses rêves. Il rêve énormément. Il écrit tous ses rêves, et vraiment, c'est une matière mais tellement énorme pour comprendre quelle est la psyché d'un homme blanc complètement façonné par l'esprit du XXe siècle. Vraiment, l'analyse psychanalytique des rêves de Léris, mais c'est une matière hallucinante pour questionner ça, en fait. L'impensée coloniale. Qu'est-ce que c'est que l'impensée coloniale dans ces rêves hypersexuels avec des féticheurs dahoméens au sexe protubérant, enfin, avec qui lui se sent complètement frêle, ou tous ces rêves érotiques qu'il peut faire quand il est complètement déstabilisé et possédé par l'esprit de cette femme, mais avec qui il ne peut pas aller, Emma Weish, avec qui il ne s'autorisera pas à aller, parce que c'est impuissant, parce qu'il peut pas, parce que c'est une femme noire, parce que c'est inimaginable pour lui. Et en même temps, il va la posséder par la littérature. Enfin,
il écrit un très grand poème bien des années plus tard aussi.
Oui, très très beau. Ouais. Et même ce qu'il écrit d'elle dans le texte est à la fois complètement obsessionnel, complètement raciste et en même temps absolument magnifique. Enfin, il y a quelque chose de tellement complexe dans cette relation. Et en fait, voilà, je trouve que j'ai rarement approché de façon si près la racialisation des rapports amoureux, en fait, et l'impossibilité de... Et qu'est-ce que cette charge raciale, en fait, comment elle fait peser sur nous et sur les Noirs et sur les Blancs, et dans une espèce de tension constante qui est dit là par le texte de façon puissante. En tout cas, moi, c'est ce que je lis, hein, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire vraiment dans quelque chose de... Enfin, c'est une source extrêmement précieuse pour moi.
Et justement, tu, Yannick, tu as travaillé sur un livre avec un dessinateur, hein, sur les procès. De travailler en équipe comme ça, à deux, par rapport à un roman que tu écris tout seul, comme La Monteuse, est-ce que le fait que vous avez travaillé, il a dessiné, tu as écrit, est-ce que vous avez collaboré ensemble ou c'est juste chacun de côté? Est-ce que vous parliez le soir? Comment on échange quand on écrit un livre où il y a des dessins?
Alors d'habitude, on est tout seul, effectivement, oui. Donc moi, je suis assez solitaire. Mais là, en l'occurrence, ça s'explique effectivement par le fait, on le sait tous, que dans les tribunaux, on n'a pas le droit de filmer ni d'enregistrer. Donc il y a effectivement des dessinateurs, avec lesquels tu travaillais. Et François Bouc était là à mes côtés pendant 3 mois et demi, durant ce très très long procès qui a eu lieu en 2020 de sur les attentats de janvier 2015, c'est-à-dire contre Charlie Hebdo, contre l'hypercachère et contre la policière Clarissa Jean-Philippe. Et oui, on travaillait constamment ensemble parce qu'on devait fabriquer la chronique et le livre en même temps. Donc après les 10 heures d'audience qui étaient prodigieusement terribles, Là, c'était la tragédie aussi tous les jours. Puis j'entendais les scènes de crime ne cessaient de se répéter. On a même vu des images sous scellés qui n'ont pas été montrées à la presse ni au public. On a vu l'enregistrement des Kouachi arrivant, comment dire, l'enregistrement dans l'entrée de Charlie Hebdo, vous savez, par la caméra de surveillance en noir et blanc. C'est des images qui me hantent. Enfin, j'ai failli arrêter ces chroniques à cause de ça. On les a vues. Et ils tirent comme ça sur quelqu'un que je connais bien, qui est un ami à moi, poussant Coco comme ça, qu'ils avaient forcé à lui donner le code, sinon il l'a tué. Or, elle avait une petite fille, ça a été là aussi, elle a expliqué pendant des heures qu'elle savait que si elle donnait le code, tout le monde serait tué, et que si elle ne le donnait pas, sa fille serait orpheline, tout ça en une seconde. Et comment dire ça ? Oui, je m'éloigne, mais travailler avec quelqu'un, si j'ai choisi d'être écrivain, je ne l'ai pas choisi évidemment, c'est aussi parce que ça, j'y arrive pas moi. J'ai essayé d'être scénariste, d'écrire avec des cinéastes et d'écrire à plusieurs. Et à chaque fois, ça marchait pas finalement, parce que nos désirs, j'avais pas la chance que tu as d'avoir une espèce d'âme sœur, enfin de compagne spirituelle ou esthétique, comme tu me disais, ou politique. Mais là, ça a marché parce que tous les soirs, après ces 10 heures de procédure, enfin d'audience, pardon, on allait dans un café. Moi, je me saoulais parce que j'en pouvais plus. Enfin, vraiment, il fallait que je... J'avais écrit 30 pages par jour de notes. Et puis, Book me montrait les... Et puis, on travaillait, on montait. J'aime bien ce mot. Enfin, voilà, ça existe aussi en littérature. On montait ça très vite parce que il fallait que je rentre chez moi si j'habite très loin. Comme d'ailleurs, on est quasiment voisins, en périphérie, tout en haut de Montreuil. Et parfois je rentrais à pied, puis à 4 heures du matin, il fallait se lever pour écrire la chronique, la rendre à Charlie Hebdo. Et dans la nuit, Book avait modifié enfin, les dessins. Donc en fait, je ne sais pas comment on a fait, mais pendant 3 mois et demi, c'est peut-être comme si on écrivait un scénario ensemble.
Qu'est-ce que les dessins ils apportaient à ton texte ?
Ah ben, on voyait les visages. Moi, j'avais beau les décrire. Je crois que les lecteurs de quotidien de la chronique avaient besoin de voir les accusés. C'est un procès qui s'est très vite joué à... Je ne sais pas comment on dit ça, qui s'est joué, c'est pas joué, mais c'est, ça a très vite été interdit au public parce qu'il y a eu 3 attentats pendant le procès, dont celui contre Samuel Paty. Alors on était protégés par la police. Dans ces cas-là, on se met à avoir peur, précisément parce qu'on est protégé par la police. Oui, je me rendais compte tous les jours, j'avais des dizaines et des dizaines de mails des lectrices et des lecteurs sur Charlie Hebdo qui m'encourageaient et qui me disaient que c'était beau d'avoir accès à l'intérieur du tribunal aussi par les dessins, par ce storyboard génial qu'on a fini par éditer enfin.
C'était les visages des accusés ou les visages
de tout le monde, les témoins à la barre, les parties civiles, parce que dans les procès pour attentats, comme vous savez, c'est la grande vertu. Mais je vais te redonner la parole. C'est la grande vertu de ces 2 grands procès, celui pour l'attentat de janvier 2015 et celui qu'on appelle V13, enfin vendredi, celui du Bataclan, disons, du 13 novembre. La grande vertu, ça a été de libérer, là aussi, une parole qui est celle des parties civiles, qui a pris presque toute la place, parce qu'il n'y a nulle part dans la société d'autre place, voilà, pour cet exorcisme-là, j'ose le mot, pour cette conjuration du malheur. Parce que dans les 2 cas, dans ces 2 procès, la résolution de la vérité juridique, bon, elle laissait peu de place au doute. Outre le fait que les terroristes étaient morts, les complices, ça se jouait pour eux, c'était très important, ça se jouait dans des proportions de peine. Mais à peu près, le scénario tout entier de ces mises à mort collectives dans Paris était déjà connu. Mais il y a eu un déferlement extraordinaire auquel j'ai assisté, qui n'est pas sans rapport avec le film « Nous », notamment, par la grande prise en compte, voilà, la grande envergure à 360 degrés de ce que c'est que la France, parce qu'il y avait des gens qui venaient parler, qui avaient été victimes à divers degrés, enfin, durant tout l'itinéraire des tueurs. Bon, voilà, tout ça pour dire que, au fond, cet entretien qu'on a là aujourd'hui parle aussi, et je suis content que tu en aies parlé aussi précisément, de ce que c'est que de vivre dans un pays. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que ce pays a fait à d'autres pays avant? C'est quoi une nationalité? C'est quoi être voisin, comme nous? Et à la fin, moi, dans ce procès, je voyais les 12 types, là, que des hommes, évidemment, comme toujours, les 12 types qui avaient participé à ce crime, ils étaient juste un peu comme les types que je croise au café, moi, entre Romainville et Montreuil, quoi, c'est tout. Enfin, ils n'avaient rien de spécial. Et comment dire ça? Je reviens au tout début de ce qu'on disait. Le cœur qui comprend, c'est une phrase de, si je puis me permettre, c'est dans, parce que je suis en train de relire tout ça. C'est le dans l'Ancien Testament, Yahvé qui choisit les rois d'Israël à chaque fois leur demande, c'est un privilège, leur demande ce qu'ils veulent obtenir que les autres humains n'ont pas. Et bon, le roi David a demandé la puissance et l'argent, etc. Mais son fils, et tous les rois ont demandé ça, en fait. Beaucoup de territoire, beaucoup de conquêtes, beaucoup de puissance. Et puis à un moment, il y en a un qui est un peu bizarre, qui s'intéresse à la poésie, qui s'appelle Salomon, fils de David, comme vous savez. Et Yahvé, lui, se manifeste à lui en lui disant, comme d'habitude, rituellement, qu'est-ce que tu voudras que les autres n'ont pas? Et il dit, un cœur qui comprend. Et Yahvé est stupéfait en disant, c'est qui ce type? Enfin, je l'ai choisi, mais enfin, il a l'air un peu bizarre. Et un cœur qui comprend, pour moi, c'est la plus grande des choses. Et je pense que peut-être, le plus souvent, en tous les cas, je l'espère, sont les artistes qui prennent ça en compte, qui maintiennent ça, le cœur qui comprend. Et en tous les cas, c'est une qualité que je reconnais à tes films. Enfin, c'est de ça dont il s'agit. Et quand on fait l'épreuve... l'expérience plutôt d'aller dans un tribunal longuement comme tu l'as fait ou comme je l'ai fait, alors là on voit que ça existe en fait, que la parole est contradictoire, démocratique, que tout se brouille, que tout se trouble, que celles et ceux qui sont accusés, c'est pas si clair, et que voilà, il s'agit effectivement de langage à la fin. Et c'est aussi, je sais pas si vous avez vu le film Saint-Omer, mais ce qu'il y a de prodigieux, c'est la qualité du langage, enfin, la clarté, la limpidité dont on parlait aujourd'hui du langage, et notamment la qualité, je dirais presque duracienne, j'y reviens. Au début, la professeure dans le film, qui joue ton rôle finalement, je le sens comme ça, elle étudie à la Sorbonne, elle est avec ses étudiants, un texte de Marguerite Duras, et l'accusée, celle qui a laissé son enfant être emporté par la mère, a une prodigieuse qualité linguistique qui la rend apte, je dirais, à tutoyer ses propres abîmes. Et elle dit elle-même, et je crois que c'est aussi le sujet de ce dont on parle aujourd'hui, et c'est le grand sujet de la société, qu'elle a attendu son propre procès pour comprendre qui elle est, pour comprendre ce qu'elle a fait. Et donc cette obscurité, je dirais, abyssale des êtres, ces régions de l'être qui nous habitent, enfin, qu'on choisit de colmater, enfin, la plupart du temps, de ne pas voir pour toutes sortes de raisons, parce que c'est difficile, cette région de l'être, enfin, je trouve que tu les interroges, voilà. Tu l'interroges, cette région.
On va peut-être finir sur ces beaux mots cette conversation. C'est l'heure. Et donc, je vous invite tous à... Alors, donc, on n'a pas pu passer d'images ici aujourd'hui. J'espère que peut-être qu'il y aura une rétrospective à Lise Diop, et j'en suis même sûre, bientôt à Rennes.
Il y a les DVD aussi.
Alors, oui, justement. Ouais. Alors, ensuite, il y a les DVD. Trois films sont en DVD. Saint-Omer, Nous et La Permanence. je crois, ils sont en DVD. Donc, s'ils ne sont pas encore au champ libre, on va les commander pour qu'ils y soient. Sinon, il y a moyen aussi, pour ceux qui sont abonnés à Tenk, je ne sais pas, il y en a peut-être ici dans la salle, ou pas abonnés, on peut voir tous les films d'Alice Diop, enfin, tous les premiers films qui sont formidables, Vers la tendresse, les Sénégalaises et la Sénégalo-Gauloise. Ça, c'est vraiment des très chouettes films sur Tenk. Vous les louez, en fait, ça coûte 2 euros, donc c'est pas très cher. Ils n'existent pas en DVD, mais il y a possibilité de voir tous ces films entre les DVD qui existent et cette plateforme formidable qui est Tenk. Voilà, donc on attend avec impatience quand même, mais c'est pas pour tout de suite. Afrique. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Est-ce que tu vas faire le trajet qu'a fait Léris dans Afrique fantôme?
Alors malheureusement, ce trajet n'est plus possible politiquement.
Plus du tout. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, de toute façon, donc voilà.
Il n'y a aucun pays, le Mali, le Niger.
Soudan, évidemment, évidemment.
L'Éthiopie, c'est compliqué, non.
D'accord.
Bon. Ça va pas être documenté.
Et tous les livres de Yannick Gaël sont donc en vente dans les librairies ici, en bibliothèque aussi, dans toutes les bonnes bibliothèques de Rennes. Ben, merci à vous et merci à vous deux.
Merci. Merci.